Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a un père, une mère, un grand-père qui s'échappent de la photo de famille. Les prisonniers du Polaroid se libèrent du cadre. Ils étouffent dans l'album en noir et blanc du tiroir. Ras-le-bol de faire la pause sous l'arbre centenaire du jardin. Fini la comédie des sourires figés d'éternelle jeunesse sur le papier jauni. Les photos de famille veulent découvrir le nouveau monde des selfies. Ils vont vite déchanter. Dans tes rêves, les rockstars de tes posters d'ado font la tournée des papiers vintage. Tous botoxés, photoshopés, liposucés, face à tes yeux médusés. Ils avaient 30 ans quand on avait 15. Aujourd'hui, c'est toi le quadra qui mate tes idoles, qui ressemblent à des quinquas. Et là, tu te demandes si John Lennon se serait teint les cheveux dans ce monde du tout à l'ego et des selfies. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier journaliste, animateur, acteur, écrivain, chanteur, photographe à ses heures jamais perdues, un polymorphe bosseur et pressé qui dort peu, paraît-il. Bonjour, bonsoir, Nikos Aliagas.
Bonsoir, Laurence.
C'est vrai qu'il paraît que la grasse matinée, ça fait pas du tout partie de la culture familiale.
Non, on nous réveille très tôt. C'est ceux qui ne travaillaient pas qui dormaient, c'est ce que disaient mes parents. Depuis toujours, du coup, je dors peu, je dors 3-4 heures par nuit. Mais ça me va bien.
L'avenir appartient aux franco-grecs qui se lèvent tôt alors.
Oui, et qui ont des enfants qui se lèvent très tôt aussi.
Ça aide, on n'a pas le choix. Et on reparlera tout à l'heure aussi de cette passion pour la photo, l'imaginaire de la photo, photo de famille. Mon rêve là, il vous inspire quoi? Justement ces photos à l'ancienne qui se révoltent, qui veulent rejoindre le royaume des selfies.
Ah, la photo à l'ancienne, c'est celle qui nous rappelle qu'on est de passage, incontestablement. Ça a été pour moi le déclic de la photographie assez jeune, lorsque dans une boîte à chaussures de mes parents, j'ai trouvé des photos de mes parents jeunes. Donc j'ai réalisé que mes parents ne sont pas nés vieux. Et du coup, ça m'a un peu bouleversé. Et j'ai commencé à photographier de façon imaginaire, avec un appareil invisible, les visages pour ne pas les oublier jeunes, en fait. Donc ça a été un premier choc, un premier déclic. Le temps et l'espace et finalement la photographie se retrouvent. Donc c'est ce qui m'attire et c'est ce qui me parle. Directement.
On parlera de ces épreuves du temps, qui est d'ailleurs le nom des expositions de photos que vous donniez il n'y a pas si longtemps encore. Mon second est tout aussi pressé, je crois savoir, journaliste, écrivain, auteur du célèbre dictionnaire du rock. C'est un raconteur d'histoire et de very good trip du lundi au jeudi sur France Inter à 21h. Et dans un livre, Le rock au pays des rêves, c'est chez Le Mot et le Reste en coédition avec Inter. Bonjour, bonsoir, Mishka Assayas.
Bonsoir, Laurence.
Vous êtes impatient, vous, ou plutôt posé? J'arrive pas trop à vous situer.
Moi, je suis un faux calme.
Ouais, c'est ça, ça bouillonne.
Oui, non, je suis plutôt impatient, oui. J'ai appris à me tempérer avec les années qui ont passé.
Dit-il, à l'épreuve du temps, justement.
Oui.
Dans mon rêve à moi, vous pensez que John Lennon, il serait teint les cheveux aujourd'hui? On parle d'éternelle jeunesse.
C'est pas impossible, puisque Paul McCartney le fait.
C'est vrai. Lennon est peut-être plus rocker, aurait été peut-être plus rocker aujourd'hui.
Ça se discute. Paul McCartney, à mon sens, est un meilleur interprète de rock'n'roll que Lennon.
Ah.
Ouais, je sais que c'est toujours le cliché de dire que McCartney est douceâtre et Lennon est un teigneux. C'est peut-être vrai dans la vie, mais non, McCartney est très dur dans la vie. Mais puis Lennon était capable d'être très mièvre aussi. On l'a oublié, Imagine. Bon.
Bah quoi?
Bah c'est pas les Sex Pistols.
Moi, je pense ah bah ça.
Il serait peut-être passé à autre chose aussi.
Oui, c'est pas impossible.
Genre secrétaire d'État de Trump.
Lennon ou...
Oui, mais c'est une blague.
Non, mais c'est bien, tout est possible. De toute façon, voilà, c'est le but du jeu de cette émission. On est dans les si, dans l'imaginaire. Première rencontre dans la vraie vie, On ne vous a pas réunis non plus par hasard. Je crois savoir que l'un
comme... rime.
Ou d'abord...
On a des noms qui se terminent par as.
Exactement.
Ce qui est assez rare.
Oui. D'ailleurs, tout, hors micro, vous pouvez le raconter. Vous disiez, toi, est-ce que tu t'es rendu, je sais pas, de ton nom quand t'étais môme?
Oui, on m'appelait Essuie-Glace.
Mais, moi, il y a un copain qui m'appelle encore comme ça.
Essuie-Glace aussi?
Oui, quand il m'appelle au téléphone, oui.
Donc, on a la même enfance.
On est peut-être le même copain, sans le savoir.
Ça se trouve, on a le même copain.
Alors, je ne sais pas si l'un a lu le dictionnaire du rock de l'autre ou si l'un.
Enfin, bon,
a
je l'ai lu puisque je l'ai
non, mais, non, mais l'autre, je veux dire, où l'un a vu la Starac The Voice de l'autre.
C'est difficile de ne pas le voir, oui.
Ouais, ouais. Non, mais je connais le travail de Micha et surtout, c'est quelqu'un qui résiste, justement. Qui résiste à la facilité et au buzz. Parler de rock'n'roll, c'est pas pour, justement pour raconter ce qu'est devenu tel ou tel chanteur et montrer la décadence, mais se souvenir en quoi il est resté immortel à l'époque, oui, où il chantait ce titre. Et en ce sens, Micha fait un travail remarquable.
Moi, c'est, je suis très touché.
Quand on a besoin d'un truc, d'ailleurs, quand on prépare nos émissions, on cherche toujours les spécialistes. Et en général, on plonge dans votre travail. En général, je dis, il se plante jamais. Il a la bonne info en général.
Ouais.
Il est méticuleux.
Oui, oui, mais ça, c'est mon côté chartiste.
Mais l'un comme l'autre, je crois savoir, vous vous définissez comme des passeurs, même artisans, ai-je lu chez l'un et chez l'autre. Mishka Assayas, passeur. Critique rock, vous dites non, c'est pas une profession, ça.
Ouais, je pense que c'est quelque. De toute façon, critique, il faut pas le rester longtemps. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire à ses débuts pour se confronter à ce qu'ont fait les autres et trouver sa propre identité. Moi, j'étais très intolérant quand j'étais jeune, il y avait vraiment... Ah bah, si, ça, alors là, par exemple, si les gens qui refusaient d'écouter Joy Division voilà, m'approchaient, je pensais que la conversation n'avait pas lieu d'être. Enfin, c'était des gens de mon âge et qui écoutaient du rock, je veux dire. Mais artisan, oui, parce que je pense qu'il faut être très méticuleux quand on transmet sa passion. C'est-à-dire que il y a différentes façons, bien sûr. On peut très bien parler de ses impressions, employer un langage très fleuri, très lyrique, mais je pense que c'est plus fort de raconter des histoires qui sont vérifiées, qui sont exactes, et d'entrer dans l'intimité des créateurs. Et pas justement voir les choses par le petit bout de la lorgnette, et raconter que ce sont des humains, et que les chansons sont nées de la vie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi, moi, qui me touche dans tous les arts. C'est-à-dire que... l'écriture, par exemple, la littérature n'est pas un travail artificiel de combinaison de mots, de phrases et de chapitres. Juste. C'est l'incarnation. Et j'ai voulu montrer que le rock était une incarnation.
Mot qui est souvent galvaudé d'ailleurs aujourd'hui. Oui, mais là, voilà.
Micha a raison, c'est le passage de l'ombre à la lumière. À quel moment tu as rendez-vous avec ton destin? À quel moment, sans le savoir, alors que pour toi c'est quelque chose d'anecdotique ou, je sais pas, une histoire d'amour, une rencontre.
C'est le fameux kéros, non?
Oui, c'est le rendez-vous avec ton temps personnel. Et en fait, c'est ce qui me fascine aussi quand j'ai la chance d'interviewer ou d'accompagner des artistes à la télé ou à la radio. C'est moins d'être dans le cadre avec lui pour prendre sa lumière. Il y a un terme magnifique en grec qui désigne le voleur de lumière, c'est le hétérophotos. J'adore ce terme.
Ah oui, c'est beau.
Donc on ne vit pas à travers la lumière de l'autre pour dire j'étais à côté d'un tel, j'ai fait une selfie justement avec Sting, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais plutôt essayer de comprendre.
Il se teint les cheveux, Sting.
Vraisemblablement, il l'a toujours fait, peut-être qu'il en a mis, mais peu importe. Quand tu vois le personnage, je crois qu'il a 66 ans, il a la même énergie, la même aura qu'à ses débuts. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a touché de vrai pour être encore vrai à son âge sans jouer la caricature du gars qui de toute manière très vite avait fait le tour de la chose avec son groupe, même si au début, c'était un peu chaotique quand il monte en mode punk, mais le gars a touché quelque chose. Et pourtant, il est encore là. Pourquoi? Ça me fascine.
Mais je pense que tu poses la bonne question. Et
je savais que ça allait bien le faire entre vous. Hein,
non, mais j'ai un autre exemple qui est extrêmement proche et j'ai eu la chance de l'approcher, non pas en effet pour prendre sa lumière, c'est Bono. Et ce que j'ai constaté, parce que j'ai longuement parlé avec lui, on a fait un livre ensemble, bon, et ce qui en est ressorti pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui estime qu'il n'a pas encore fait ce qu'il avait à faire sur Terre. C'est que c'est toujours devant lui que ça se passe.
Ça me parle. Ça me parle, et c'est très juste. Et par extension, et sans me comparer ou nous comparer à la lumière de ces gens-là, quand on te prête une notoriété, c'est pas à toi. Bono, il passe pas sa journée à réécouter ses tubes. Quand il est sur scène, il les joue comme si c'était la première fois.
Oui. Et c'est là où sa vie en dépendait.
Exactement. C'est cette urgence qui me fascine. Et je crois que dans le côté un peu plus prosaïque de la télévision qui est le mien, je ne regarde jamais les émissions d'il y a 17 ans. Et je suis content qu'elles aient existé. Elles ont fait ce que je suis devenu. Mais quand quelqu'un m'en parle, je ne me souviens plus de quoi il me parle.
On parlera tout à l'heure de pays de votre enfance, l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient. Mais c'est vrai que votre père, Nikos Aliagas, vous disait, bah, quand tu rentres à la maison, tu laisses la lumière, la lumière de la télé dehors, quoi, à la porte.
C'est drôle, on parle de, c'est une émission du soir, on parle de lumière, oui, de photographie.
Ouais. Et c'est ça, et de cadre,
oui,
et d'encadre. Oui,
parce qu'il a compris que c'était pas à moi. Parce qu'il a compris très vite, lui qui n'avait pas eu la chance d'aller à l'école très jeune, il a travaillé, il est venu tailleur avec une petite valise à Paris, il a compris que tout ça n'était pas du n'importe quoi. C'est un monde qui est tellement fuyant que nous devons, malgré cette promesse et ces sirènes, rester encore plus ancrés au sol. C'est ce qu'il m'a appris. C'est-à-dire que tout ça, c'est super, mais c'est qu'un métier, et quand tu rentres chez toi, il n'y a plus rien. C'est tout. Sinon, c'est pauvre de toi. La mythologie grecque aide.
Oui,
un peu.
Ça c'est sûr, ça relativise aussi bien.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Des petites lumières dans la nuit et des verrigous de tripes, hein, pour reprendre votre émission. Voilà pour la partition lyrique jusqu'à minuit. Ce soir, vous postez vos songes sur notre page Facebook dans tes rêves. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, midonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chougui, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, la technique, notre rêveur Pierre-Yves de Rolin.
Dans tes rêves.
Elle repose au milieu du jardin, affolée par mille et un parfums.
The Best, dit-il, Nikos Aglegas.
J'aime beaucoup ce titre. Ouais.
Moi aussi.
Mais vous n'arrêtez pas de papoter pendant...
Parce qu'on aime la musique, alors.
Oh bah ça, on vous a un peu réunis pour ça. La musique et l'enfance qu'on va croiser avec vous ce soir. Bon, on a commencé à en parler d'ailleurs, Nikos Aglegas.
C'est automatique, ça vient tout seul.
On n'arrête pas de parler de mai 68 en ce moment. Alors vous, on peut le dire, vous êtes carrément un enfant des barricades, non?
Pour le coup. C'est vrai, mes parents sont aimés sur les barricades.
Ouais, c'est ça.
Ma mère est arrivée touriste en avril 68, invitée par mon père pour passer un petit week-end. Finalement, elle a été bloquée parce qu'on ne pouvait plus quitter la France à ce moment-là. Il n'y a plus de moyens. Et finalement, main dans la main, alors que les uns tapaient contre les autres et les uns voulaient une autre vie et les autres voulaient garder la vie d'antan, mes parents ont créé la leur.
Oui, c'est ça.
Et je suis né en mai 69. C'est dingue, hein.
Et à l'inverse, Mishka Sayas, vous 10 ans, donc trop jeune d'abord pour être un 68-art. Mmh. Et en même temps, vous dites, moi j'appartiens aussi à la génération des sans-utopie collective, finalement assez individualiste, quelque part un petit peu snob, un petit peu dans son entre-soi à soi, même si on était en rage contre l'ancien monde et le vieux monde, déjà.
C'est-à-dire que j'ai fait comme tous les adolescents, j'ai voulu imiter mes aînés, j'ai voulu participer justement à ce monde de l'espoir révolutionnaire. Je suis allé des manifs, j'ai milité entre guillemets, j'ai collé des affiches, pas forcément collé, distribué des tracts, enfin écrit. Et puis je me suis rendu compte, et ça c'était très violent, que c'était fini, quoi, que ça reviendrait plus, que c'était déjà une nostalgie et que on allait se retrouver à poil sans nouveau monde à espérer. Et qu'il fallait scolter la réalité qui était très brutale et très violente, et pas très agréable. Et ça, c'est relié ça à ma découverte du punk, qui a fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire que... Voilà, c'était comme ça.
Eh oui, parce qu'à 18 ans, monsieur, on rase tout et on recommence, ouais. Écoutez plutôt ça. Ça vous rend nostalgique, là, quand vous écoutez ça?
Vous êtes où, Micha? Votre regard était ailleurs.
J'ai 17 ans, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, et ça me fait dresser les cheveux sur la tête, les poils. Ah oui, mais j'ai 18 ans, quoi, quand j'entends ça, et j'ai l'impression que ce monde n'est pas fait pour moi, que je vais pas y trouver ma place, que je suis à la fois excité et paniqué, je veux tout passer au lance-flamme, et en même temps j'en suis incapable, à la confusion, quoi.
Et alors, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on parlait justement des gens qui étaient restés fidèles à une sorte de révélation qu'ils avaient vécue pendant leur enfance ou leur adolescence, et moi je reste fidèle à ces éblouissements-là, j'en ai eu d'autres. Mais ça, je dirais, c'était l'appel à l'action, faire quelque chose de sa vie, et l'idée que on avait très peu de temps pour exister. Moi, je pensais que
déjà l'urgence, hein,
c'est ça. Ouais. J'avais l'impression que j'avais quelques semaines pour faire quelque chose ou quelques jours. J'avais un parcours tout tracé, j'aurais pu être universitaire, professeur, etc. Et j'ai quitté ça parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille là où ça brûlait, quoi.
Comme quoi, jeune, on peut être dans le bad trip et un peu plus.
On redécouvre la
fameuse lumière dont on parlait, du good trip, quoi.
Mais pour autant, j'étais baigné évidemment de choses très très heureuses. Heureuse et très utopique et très en... Oui, enfin, oui.
Alors, à la maison, peut-être chez vous...
Ça me touche, il me touche beaucoup.
Ah bah oui.
Parce que je l'imagine, par exemple, dans le métro, dans le bus, à côté de gamins, dans leur temps, dans le 21e siècle d'aujourd'hui, en train d'envoyer des Snapchats. Et lui, il a l'air d'un monsieur, bien, jeune encore, mais dans sa tête, il entend du punk. Je trouve ça touchant. Et le gamin, il le saura jamais. Parce qu'il n'aura jamais connu cette époque-là.
Chacun ses tribus musicales.
D'ailleurs, on devient des vieux cons.
Oui, c'est ça, faites gaffe. Eh bien, parlant de musique qui résonne encore, mais qui remonte à un certain temps aussi, peut-être qu'à la maison, chez vous, on écoutait ça.
C'est vrai. Si tu aimes les problèmes, les échecs, c'est un vitesse essuie grec. Mon père le chantait comme ça. Mélina Mercouet.
Bah oui, bien forcément. Vos parents, pendant longtemps, ont vécu dans le retour au pays.
Oui. Le retour de d'Ulysse, qui reste une quête finalement impossible et assez illusoire, parce que j'ai grandi avec cette fameuse phrase « L'année prochaine, on rentre chez nous ». Et quand j'arrivais en Grèce, et encore aujourd'hui, adulte, les Grecs me disent « Mais quand est-ce que tu reviens ?» Mais je ne peux pas revenir, je n'y suis pas parti. Donc c'est toujours l'idée de la représentation qu'on a du chez-soi, elle est intéressante. Donc j'ai grandi en marchant quasiment sur les braises, en me sentant étranger et chez moi partout. Et c'est assez tard finalement que je me suis dit, mais je suis né en France. Mon pays, c'est la France. La Grèce m'a guidé, telle une maîtresse, une idée, une chimère peut-être, ou un idéal. Mais je l'ai en moi. Le plus beau territoire, il est dans ton cœur. Le plus beau pays, il est dans ton cœur. Il est là, le rêve.
C'est vrai que vous rêvez en grec, vous pestez en grec.
J'aime en grec.
Vous comptez en français, par contre, tiens, c'est marrant.
C'est
côté cartésien, occidental et spiritualité orientale.
Totalement.
Quoi.
Le mystère, l'irrationnel, l'inexplicable est grec. L'intuitif est grec. Je peux me retrouver devant des cas à résoudre ou des décisions à prendre sur le plan juridique. Puis finalement, ma main suit l'instinct au dernier moment et non pas les cinq personnes qui vont te conseiller et qui vont te prouver par A plus B que c'est bien pour toi. Si mon instinct dit non, ça sera comme ça. Et ça ne m'a jamais lâché. Jamais. C'est assez drôle parce que même avant un direct ou avant une émotion forte de tension, je ferme les yeux et je m'envole au-dessus des cyprès et je vois la montagne de mes ancêtres.
Ouais.
Et j'ai toujours été obsédé par l'héritage malgré nous. ce que nous avons en nous.
L'invisible, on le transporte, oui. Et en même temps, on ne peut pas nous le retirer non plus. C'est la seule chose dont on est propriétaire.
Encore faut-il le reconnaître.
Oui, ouais.
On est dans une psychogénéalogie qui nous dépasse.
Ouais.
C'est-à-dire, ce que tu es, la façon dont Micha, en ce moment, pose son coude sur la table et pose son poing sous son menton, peut-être...
Mon père le faisait.
Voilà. Mmh. Et en fait, il faut être capable de voir ça.
Ouais.
Et la photo aide à voir ça.
Ouais. Zoom, en tout cas, sur un détail qui peut en dire...
Oui, parce que tu crois être dans ton présent qui t'appartient,
ouais.
Et en fait, non. Tu ne fais que répéter des schémas qui ont déjà existé, mais tu as le libre arbitre. Tu peux décider, mais tu n'es pas seul. Tu as du monde dans ta tête et tu as du monde derrière. Ça, ça m'obsède.
Ouais.
Mais parfois, j'ai l'impression que je suis taré. Donc,
Moi, je suis pire.
Vous, votre père scénariste, il était de Constantinople. Hein,
Il était né à Istanbul quand cette ville s'appelait encore Constantinople.
C'est
c'était
ça.
Un hasard.
Ouais.
Ça me parle beaucoup, Constantinople.
Byzance.
Mais ça dit, vous l'avez raconté dans un livre qui s'appelait Faute d'identité.
Oui.
Voilà, et c'est trois trucs kafkaïen administratif où il a fallu renouveler votre passeport et prouver votre identité française et vous êtes retrouvé malgré vous à aller fouiller les archives familiales et se poser la question justement des identités, celles de vos parents aussi qui vous échappent et...
Oui, c'est très accidentel, comme vous dites, parce que c'était en 2009, je devais partir en mission pour le service public, donc France Musique, et puis je me suis aperçu que mon passeport était arrivé à expiration, et là je suis allé au commissariat du 18e, et je suis tombé sur un employé qui m'a regardé mes papiers et qui m'a dit qu'il pouvait pas les renouveler comme ça, qu'il fallait que je prouve l'origine de mes parents qui étaient nés l'un et l'autre à l'étranger. Et ça a été le début d'un cauchemar, parce que j'avais jamais pensé à mon identité. Enfin, surtout, si vous voulez, je pensais pas que ça serait un employé de l'administration française qui me pousserait à faire de l'archivisme familial. Je sais pas, c'est très difficile. J'ai du mal à en parler comme ça, à la radio. Enfin, j'ai écrit un livre parce que souvent on écrit ce qu'on n'est pas capable de dire.
Oui.
Mais je peux vous dire que c'est une expérience qui m'a transformé. Et depuis, que on a remis en question ma nationalité française, je me sens pas très bien. J'ai l'impression que je suis en sursis, qu'un jour, quelqu'un va peut-être venir chez moi taper et me disant, voilà, écoutez, vous pouvez plus rester ici, il faut que vous partiez. Enfin, je sais pas comment dire, c'est une angoisse.
Oui, ça vous a déstabilisé, quoi.
Ah ouais, c'est une angoisse terrible. Enfin, voilà, c'est dur.
Ça me parle beaucoup. C'est la boîte de Pandore. On parlait tout à l'heure d'Ulysse, de l'éternel retour. Ça déclenche souvent ce que vous avez, on parlait tout à l'heure de l'héritage, ça déclenche souvent des choses qui sont en vous malgré vous. Vous pensez ne pas être concerné par une ruelle de Constantinople, mais qui était peut-être la ruelle de votre grand-père, qui était tombé amoureux de votre grand-mère
non,
à ce moment-là.
En plus, que j'ai une histoire familiale extrêmement compliquée, parce qu'en fait, mon père était milanais, et il avait mon grand-père, que j'ai jamais connu, était banquier, et donc il travaillait pour une banque qui avait une succursale à Constantinople.
Ouais.
Et la famille bénéficiait de la part de l'Empire ottoman de ce qu'on appelle la protection française. Et quand la Première Guerre mondiale a éclaté, la France, évidemment, était opposée à l'Allemagne, comme vous le savez, et les Turcs, les Ottomans, soutenaient l'Allemagne.
Ouais.
C'était le même camp. Et donc, les protégés français ont dû quitter à ce moment-là. Et donc, c'est là que la famille s'est retrouvée en Italie. Enfin, c'est tellement compliqué.
Oui,
moi-même,
oui.
Je suis incapable.
Vous y êtes allé à Constantinople ?
Oui, j'étais deux fois.
Que ressentez-vous ?
Ah, mais une familiarité extraordinaire.
Voilà.
Je sais pas pourquoi. Je suis jamais allé là-bas avant 2013.
Parce que vous portez l'exil des vôtres en vous.
Mais vous, par exemple, Nikos Aliagas, vous l'avez raconté, la figure de vos parents est importante, celle d'un grand-père aussi, qui vous répétait peut-être gamin ou ado, surtout, mets à côté de ton lit, on parlait de passeport, et toujours à côté de ton lit, un passeport, un peu liquide, une chemise et des sous-vêtements propres. S'il y a une dictature, tu dois partir en pleine nuit. Ça aussi, on parlait d'héritage, qu'on se transporte, qu'on voilà.
Le passage, rien n'est acquis. L'embourgeoisement, à la fois psychologique et social. Te dire que ça y est, je suis arrivé quelque part, ça m'appartient. Or, les anciens, et mon grand-père me disait souvent, j'espère que tu ne connaîtras pas la guerre, et je riais, et la guerre est venue chez nous, et nous ont appris à faire en sorte, non pas de vivre dans une paranoïa de l'avenir, mais de vivre dans l'instant. Et dans cette maison ronde où nous nous trouvons ce soir, j'ai rencontré un homme extraordinaire. J'avais 18 ans, je travaillais ici, je coupais des dépêches, et je faisais un reportage sur la dictature, pour RFI. Et j'appelle un certain nombre de personnalités grecques qui travaillaient ici à Radio France pendant la dictature, et arrive Haris Fakinos, l'écrivain. C'est le 1er janvier 1991. Et à ce moment-là, il voit un gamin d'origine grecque qui travaille. Puis, je vois le regard un peu embué. Et il me dit, donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer des livres. Parce qu'il était écrivain. Et il me fait une lettre ce soir-là. Il met, à partir d'aujourd'hui, je sais que là où tu es, tu feras ton chemin, tu apprendras, sois à l'écoute, et sois prêt à recommencer à zéro et à partir, parce que la vie n'est qu'un passage. Et cette lettre, 20 ans plus tard, le 1er janvier 91, tombe d'un bouquin qui était dans ma bibliothèque, et voilà, le même jour, la synchronicité.
Un signe.
Mais oui. Mmh. Alors, on peut ne pas y croire, moi j'y crois. Mmh. Donc effectivement, lui, par exemple, allait au cinéma, parce qu'après c'est devenu un ami, et il se mettait toujours à côté de la sortie de secours, parce qu'il disait, si jamais il y a un coup d'état, il faut que je puisse partir. Voilà, donc c'est voilà, l'urgence.
Ouais, l'urgence de vivre, allez, chacun est de passage. Elle est éternelle, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, Jeanne.
Je suis indolente, mes yeux sont vagues, vagues, vagues. Je balance mes hanches vaguement. Mes lèvres remuent, fardées de mots si vagues, vagues. Les passants hésitent en me croisant. Le temps maudit toujours les presses. Le temps si lent pour celle qui attend. Le temps me berce de paresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent desservis de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs. Les hommes nonchalants me font des signes vagues, vagues, et me frôlent de l'épaule vaguement. Une étreinte vague entre deux êtres vagues, vagues, c'est un peu renier le néant. Le temps maudit toujours nous presse, le temps pourtant qui va si lentement. Le temps efface mes caresses, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent desservi de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
Le blues indolent de Jeanne Moreau, et ce soir nous explorons le cinéma intérieur, l'imaginaire de nos deux invités, les journalistes, animateurs Mishka Assayas et Nikos Aliagas.
Mon allié est la force. Son énergie nous entoure.
Dans tes rêves.
Et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, partout.
Laurence Garcia.
Et des êtres illuminés, il me semble qu'il y en a un petit peu dans ce studio là ce soir, et en même temps on le revendique, non, Mishka, Nikos.
Ah, j'ai jamais pris ça comme une insulte.
Une insulte, au contraire.
Non, au contraire, oui, c'est...
Est-ce que vous pouvez montrer vos mains
à qui
à Nikos, comme ça de loin.
Oui, et alors
c'est des mains puissantes, des mains de travailleurs en fait, alors que vous ne travaillez pas la terre vraisemblablement.
Je suis même pas un super bricoleur d'ailleurs, mais
ça m'étonne pas.
Ouais. Il y a mais eu des gens chez vous dans vos origines avant qui travaillaient la terre. Vous avez des mains puissantes.
J'ai un grand-père peintre. J'ai un grand-père peintre, caricaturiste, dessinateur, qui était hongrois. Ça c'est la branche maternelle et protestante. Ouais.
Alors, si ces gens viennent là, parce que vous n'êtes pas forcément au courant, mais jusqu'à Sayas, mais Nikos Aliagas, je vais avoir du mal avec vos noms là.
Appelez-moi Nikos.
Appelez-moi Nikos. Voilà. À une casquette, pas moi, casquette un peu moins connue de photographe. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les photos des stars, mais des anonymes. Ouais. Photographier les mains, des visages qui portent, pas l'épreuve du temps, hein, pour prendre, c'est pas des photos chopées, c'est pas
botoxées,
ce sont des mains, des petites mains, des mains de labeur, hein, fils de tailleur, c'est pas anodin. Il y avait quoi là aussi, l'envie de montrer ceux qui sont hors lumière. On parlait de lumière tout à l'heure, de passage de lumière.
Oui, parce que tout le monde a une lumière et c'est on parlait de la lumière passagère, de la notoriété. Et aujourd'hui, tout le monde est connu. On a Warhol est totalement démodé puisque on a dépassé le quart d'heure. Là, on est dans le 21e siècle. Souffrira et souffre de narcissisme, c'est une chose. Mais il ne le sait pas. C'est là où ça fait mal, c'est que tout le monde parle de ça, mais tout le monde s'amuse à se laisser aller à l'idée du miroir déformant, parce qu'une selfie...
Non mais vous passez votre temps dans ce royaume-là, à la télé ou autre.
Oui, mais les révolutions se font dans les châteaux, pas
de l'intérieur, mais vous êtes en fait un...
Une cinquième colonne.
C'est un révolutionnaire de l'intérieur.
Mais je le pense, je pense qu'à l'extérieur c'est très bien. Mais qu'il faut se frotter à l'absurdité kafkaïenne d'un système, d'abord pour le comprendre et non pas le juger. La photographie ne juge pas, c'est l'homme qui la jauge. Et quand je photographie des mains, par exemple, c'est parce que les mains disent ce que le masque social ne dit pas. Entre l'hystérie de la selfie et du paraître à la limite du délétère, il y a quand même une réalité. Et cette réalité-là, j'essaie de l'explorer pour comprendre où on en est peut-être. Celui que je vais photographier au Sri Lanka ou à Cuba et qui n'a rien demandé, je n'y vais pas avec l'œil occidental de celui qui trouve ça exotique. J'essaie de comprendre sa vérité et en quoi il est ce que je suis, ce qu'était mon voisin, mon père. On est tous... finalement connectés par des choses élémentaires de la vie qui sont nos sentiments, la vie, la mort, l'espoir.
La vieillesse.
Le temps est irrémédiable.
Et d'ailleurs, les photos, c'est ce qui reste aussi à tous ces exilés pour ne pas oublier, d'ailleurs, la fameuse mémoire qui s'efface ou autre.
Moi, je suis fasciné quand je regarde les photos d'avant, les photos des anciens, parce que j'essaie de comprendre le présent du moment de la photo.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais il y a une chose, vous parliez, mais ça c'est une expérience que tout le monde a faite, et moi en premier, c'est les photos de famille dans la boîte à chaussures. Et ce sont des photos qui sont des objets. Et elles évoquent pour vous un monde que vous n'avez pas connu, un film dans lequel vos parents auraient été les personnages principaux.
C'est joli.
La musique, au fond... c'est pareil, j'ai quantité de chansons que j'ai téléchargées, écoutées sur des sites, emmagasinées, qui sont virtuelles, mais j'ai pas l'impression...
De posséder.
De qu'elles sont comme incarnées dans ma vie. Alors que quand je regarde ma collection de disques, je sors un vinyle et je repense à ce que j'étais, ce que je pensais, ce que j'ai ressenti au regard d'une fille à qui j'ai parlé ou qui m'a pas parlé. Ouais. Enfin, vous voyez,
c'est drôle parce qu'on parlait des preuves du temps. Il y a peut-être un temps pour tout. Alors vous reprenez une passion d'enfance qui est la photo à l'aube de la cinquantaine, on va dire.
C'est vrai.
Dans l'urgence, on parlait. Vous montez sur scène, vous faites de la musique avec votre fils à vous, me semble-t-il, à l'aube de la soixantaine.
Un peu avant.
Il y a un temps pour tout. Ces boucles qu'on reboucle, ce fameux Kéros.
Le temps, alors je vais répondre avec une phrase qui n'est pas la mienne, j'ai essayé de ne pas le paraphraser, c'est Nikos Kazantzakis.
Nikos.
Voilà, l'auteur de La dernière tentation du Christ, Zorba, qui dit que le temps, on ne le compte pas comme on mesure un champ, on ne le compte pas comme on traverse la mer, le temps c'est un battement de cœur. Et en fait, c'est ça le temps. C'est ton rendez-vous avec ton existence et la cohérence de ton existence sur Terre. À un moment, le temps, il n'est pas horizontal, il n'est pas linéaire, il peut être aussi vertical. Vous parliez de ce dieu incarné dans l'Antiquité qu'on appelait le Kéros, qui est ton temps personnel. Je pense que le temps est hors du temps. Quand vous montez sur scène pour jouer la musique, c'est parce que vous auriez voulu le faire à 18 ans, vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, vous pouvez le faire, vous le faites. Non pas pour devenir un autre, mais pour redevenir ce que vous étiez. Et c'est ce qui me fascine aussi dans l'image et dans la photographie.
Sans avoir la trouille d'affronter les critiques que vous avez pu être.
Non, venez avec moi, on apprend à les affronter très vite. Quand on fait...
Ça je me doute.
À 20h50, on est blindé.
Je me doute. Tout est possible dans cette émission. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, on parle du temps là, on le remonte en arrière. 20 ans aujourd'hui, Mishka Assayas...
Mais j'ai 20 ans toutes les 5 minutes.
Dans votre tête, voilà. Mais vous seriez quoi? Webmaster, trader, candidat pour The Voice, croqueur?
Je serais complètement largué, comme je le suis encore dans ma tête. De toute façon... moi j'écrirais parce que l'écrire, c'est la bouée de sauvetage la plus simple, enfin pour des gens comme moi, parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant, etc. Donc j'écrivais, j'avais l'impression d'arriver au moins à m'accrocher à un bout de bois flottant dans une mer tourbillonnante et de ne pas me noyer. Vous savez, mais c'est illusoire. C'est pour ça que d'ailleurs que publier peut avoir de l'importance, c'est pas tant pour le statut social, etc. Parce que bon, voilà. Mais c'est plus que on a l'impression d'avoir laissé une trace, que quelque chose existe. Et ça, on s'est prouvé à soi-même que quelque chose de mieux que soi existait.
Laisser une trace.
Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais père.
Père?
Je l'étais trop tard, je pense.
Ah oui. Vous l'avez été à quel âge?
À 44 ans.
Ah oui, c'est un petit peu tard. Ouais.
Oui, mais en même temps, on est peut-être plus serein.
Mais enfin, cela dit, mon père m'a eu quand il avait 47 ans.
Voyez le résultat.
J'aurais aimé avoir un fils aujourd'hui de 30 ans.
Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est mon cas, j'ai de la chance.
Allez, avec des
le mien a 19 mois.
Ah oui,
c'est une grande chance aussi, je peux vous dire.
En fait, c'est pour éviter les nuits blanches. Allez, avec des si, avec des si. Sur France Inter, et ce soir nous explorons l'imaginaire nocturne de nos deux invités, Nico Saliagas et Mishka Assayas.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Laurence Garcia.
Messieurs, il est bientôt minuit, ça passe vite avec
elle
vous.
Elle est belle
le temps.
Votre émission. Ah, elle est belle, vous avez de la chance de faire aussi belle émission.
Merci, il faut le répéter très fort.
Elle est belle votre émission, elle est vraiment
merci,
belle.
Merci beaucoup. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire et comme à chaque fois, à chacun de nos invités, je vais vous demander pour de vrai, on parlait de petite lumière, donc là vous allez vous mettre dans votre noir intérieur, je vais vous demander de fermer les yeux. Allez hop. Vous me répondez les yeux fermés, le micro rouge est devant votre bouche. Je commence par vous, Nikos Aliagas, les yeux fermés. Dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez justement recroiser cet ancien vous, ce môme, ce gamin qui était le photographe de la famille, qui prenait en photo ses parents, son grand-père pour qu'il reste jeune dans sa tête. Qu'est-ce que vous lui dites à ce môme-là ?
Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Tu n'y es pour rien, avance. Accepte l'amour des tiens. Et ne deviens pas un autre, sois toi-même. Affronte les obstacles. Déploie tes ailes. Peu importe l'arrivée, ce qui compte, c'est d'essayer.
Il était un peu trop inquiet, ce gamin ?
Oui. Il est né avec des problèmes de santé. Il a vu ses parents s'inquiéter toute son enfance. Il était différent. Donc il a voulu prouver, il a voulu aller dans la lumière, il a voulu rassurer tout le monde, faire du bien aux autres. Peut-être en s'oubliant un peu, n'ayant pas peur de devenir un autre, mais j'ai confiance en lui.
C'est bien ça. Nishka Sayas, les yeux fermés. Pareil, vous pouvez rencontrer cet ado punk en colère, hein, en colère qui était plutôt dans les bad trips plutôt que dans les good trips. Avec du recul, vous lui dites quoi à cet ado-là ?
Ben, je lui dirais que je comprends sa colère, sa peur de ne pas être à la hauteur de ses rêves, de tout ce qu'il peut idéaliser, cette impression d'être en dessous de tout finalement, de ne valoir rien, de n'être rien dans un monde qui se dissout, où il a prise sur aucune réalité, et qu'il y a une lumière dans la nuit, parce que là je suis en train de fermer les yeux, et c'est ce que je vois, c'est justement une lumière qui est d'autant plus belle qu'elle est environnée d'une longue étendue obscure, angoissante, lugubre, et que les raisons de désespérer sont infinies, mais que tant qu'il sera capable de discerner cette lumière dans les ténèbres, rien n'est perdu et il aura le courage de se lever tous les matins parce qu'il pensait qu'il n'aurait pas ce courage. Parce qu'effectivement, pour des tas de raisons, moi aussi j'étais de santé fragile, etc., j'avais l'impression que j'étais pas adapté, quoi, que je survivrais très difficilement. Et voilà, donc c'est en fait, je suis capable de dire qu'il y avait cette lumière, mais j'aurais pas su le dire alors, voilà.
C'est ça.
Voilà.
En parlant de lumière, vous pouvez réouvrir les yeux. Mmh. Ça va ?
Ouais.
Vous y arrivez ?
Quel exercice magnifique.
Ouais.
On parlait d'introspection.
On arrive à dire des trucs qu'on dirait pas autrement.
Qu'est-ce que je vous dois, docteur ?
250 euros.
En fait,
je suis très cher, monsieur.
J'ai l'impression de raconter ma vie à quelqu'un de cher.
C'est remboursé par la sécurité.
C'est dans tes rêves. En tout cas, moi, je suis ravie de cette rencontre entre vous deux.
C'est une belle émission.
Très magnifique.
D'être arrivé à. Enfin, c'est pas nous. Enfin, je veux dire, c'est.
Bah, si,
c'est
vous,
grâce à vous que. Ouais.
C'est une accoucheuse d'art.
Oui,
voilà,
c'est ça.
C'est la reine de la maïeutique nocturne.
Ouais.
Pas mal, tiens, je me noterai ça dans un coin.
C'est ça que je mange pas.
Pas encore. Pas encore.
En tout cas, c'était très agréable de vous écouter et d'écouter l'autre aussi, de vous être raconté à travers l'autre.
Silence.
Merci à vous. Merci. Belle route, beau rêve pour continuer de rêver avec vous. Mishka Sayas, il y a bien sûr les Very Good Trips du lundi au jeudi sur France Inter à 21h et le livre Chez le mot et le reste. Chez nos concurrents néanmoins amis, repeints, Nikos Aliagas en balade. C'est aussi le dimanche, en balade avec. Et c'est tous les dimanches à 11h. Voilà. Belle route à vous.
Je leur ferai fermer les yeux maintenant.
Eh ben voilà. Non, en balade, c'est un peu plus casse-gueule, à mon avis.
C'était un plaisir, Mishka. Je t'ai appelé Micha deux fois.
Oui,
mais c'est
non, bon, je, bon. C'est comme
il a l'habitude. Essuie-glace.
Oui, ça. Mais moi aussi, c'était. Vraiment une rencontre inattendue et belle.
Ah, merci Laurence.
Un chant qui vont échanger leur 06. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec l'écrivain ex-journaliste Claude Sérillon et l'acteur fantaisiste Raphaël Mesrahi. Là encore, je pense que ça va être un beau tandem d'imaginaire assez surprenant.
Inattendu.
Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.